Radio Spirale. Le docteur Jean-Pierre Routy a côtoyé de près le sida depuis son apparition il y a 30 ans. Il en parle d'une manière très intimiste dans cet entretien qu'il donnait à Catherine Mavrikakis en février 2012. L'entretien avait lieu à la librairie Gallimard à l'occasion de la parution du livre « Ce que le sida a changé » chez Heliotrope.
On ne se connaît pas beaucoup, mais oui, je tenais vraiment à pouvoir faire cette chose avec vous, hein, qu'on puisse parler de votre livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, et je vais peut-être vous expliquer pourquoi ou pas, hein, mais on verra. Je vais commencer par le titre, « Ce que le sida a changé ». D'abord, ce titre m'a beaucoup interpellée parce que moi, le sida, c'est vrai que le sida a changé d'une certaine façon ma vie, mais il m'a changé aussi, c'est le sida qui m'a permis de venir à l'écriture. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire quand je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de gens autour de moi qui étaient morts du sida. Et un jour, il y en a eu un trou. Hein, j'étais je l'ai souvent raconté, j'étais dans une fête. Et puis, je demande à quelqu'un, as-tu des nouvelles de François? On me dit, mais François, tu sais pas qu'il est mort. Et bien sûr, je ne savais pas qu'il était mort, mais bien sûr, je savais qu'il pouvait être mort que du sida. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et là, j'avais un peu décidé de ne pas écrire, ou j'avais laissé tomber l'écriture parce que je travaillais à l'université. Je me suis dit, bon, j'ai voulu déjà devenir écrivain, mais bon, je laisse ça tomber. Je vais devenir prof, ça suffit. Et à ce moment-là, je suis entrée un peu en écriture, bon, de façon plus ou moins fidèle. Mais j'ai l'impression que le sida, dans votre parcours professionnel, a eu un peu cette place-là aussi. Alors, qu'est-ce que le sida, tout de suite, a changé pour vous?
Ce qu'il a changé, c'est quand j'ai commencé comme interne en médecine ou résident, j'avais 26 ans, le premier patient avait 26 ans. Donc évidemment, quand on débute, tout a une intensité des premiers jours et on débute par un échec permanent alors qu'on apprend à l'école de médecine qu'il y a des traitements, qu'il y a un certain succès, qu'il y a des pourcentages de réussite. Et là, il y a une maladie qui n'a pas de nom, qui touche des gens jeunes qui n'étaient pas malades auparavant, qui ont mon âge. Donc à la fois un mystère, des gens jeunes, donc mourir à moins de 30 ans, c'est quand même quelque chose qui reste rare dans les pays du Nord. Et dans un contexte qui va vite devenir celui de l'homosexualité, des drogués, des transfusés, donc des gens qui étaient préalablement malades d'une autre maladie. Donc un groupe très particulier que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à travers leur fin et leur agonie et leur mort. Et à un moment où j'apprenais la médecine, c'est-à-dire qu'à l'inverse de quelqu'un qui serait un bénévole ou un ami, c'était aussi associé à la fois la révolte évidente de voir des gens mourir d'une maladie qu'on ne connaissait pas, qui n'intéressait pas les patrons, qui n'intéressait pas trop les chefs de service, qui avaient d'autres activités, puis ce truc nouveau qui n'allait pas durer, c'était quelques cas qui allaient disparaître, donc il n'y avait pas un intérêt à mettre tout l'effort, toute leur intelligence dans ce travail-là. Et la différence quand même d'être étudiant en médecine ou jeune médecin, c'est qu'il y a une prise d'intervention. On peut essayer de faire quelque chose, même si au début ça ne servait pas à grand-chose. Mais dans ce qui a changé, c'est que l'inacceptable de la mort m'a poussé à faire la recherche. Ne m'a pas poussé à l'écriture comme vous, mais à dire, alors que je n'étais pas prédestiné à faire la recherche, puis les gens me disaient que tu es plutôt sympa, on te voit bien plutôt comme un médecin de famille, tu discutes, tu aimes bien parler, on te voit bien, on me l'a dit ça, on te voit bien avec des dames bourgeoises, leur parler, tes parents sont connus sur la ville, ils étaient sincères, et je pense que, et j'espère ne pas avoir perdu ce côté-là, et le sida m'a obligé à faire de la recherche, et quand je me retrouve avec d'autres chercheurs, c'est souvent des sortes bon élève avec des grosses lunettes qui aime rester au calme devant un ordinateur, ce qui n'est pas mon caractère. Donc en plus, je suis avec des gens qui font la recherche et je ne me sens pas moralement près d'eux. Je me sens différent et je pense que cette révolte première m'a permis non pas d'écrire, mais de faire la recherche relativement difficile et pointue et pas toujours rigolote ou psychosociale, mais biologique avec des nouveaux médicaments que j'aurais jamais fait certainement sans le sida. Donc voilà la première chose que ça a changé pour ma vie. Ça m'a fait traverser l'Atlantique. Je n'ai pas eu de poste universitaire en France et j'ai pu en avoir un au Québec. Donc je remercie toujours le Québec de m'avoir donné cette possibilité. Et donc ça a amplifié ma carrière et ça a fait changer mes repères, une certaine assurance qu'on peut avoir, ou simplement des bases que l'on a, parce qu'on est né à un endroit et on a une culture, une éducation. Et je pense que ça a été un regard aussi sur les autres. Et ça, c'est une ouverture qui est liée, à mon avis, à l'échec. S'il y a une chose qui m'a changé, c'est l'échec. Et si la souffrance enfante les songes, l'échec enfante le dialogue. Et c'est ce dialogue qui a été véhiculé par moi, pour moi ou à travers moi, par l'échec thérapeutique que représentait le sida. Donc, ouverture à la recherche, ouverture au dialogue qui me semble proportionnel en médecine à l'échec que l'on a. Dès que ça marche, on parle moins. Alors, c'est à la fois les grandeurs et les limites, et d'avoir découvert aussi des groupes qu'on dit plus à risque ou particuliers, des communautés, si ça en sont, je ne sais pas. Mais ça a été aussi une ouverture sur d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir le monde, et qui, alors là, du côté plutôt littéraire ou culturel, a été une ouverture ethnologique, anthropologique, philosophique, que ne m'aurait peut-être pas donné de façon aussi intense la médecine plus classique.
Alors pourquoi ce livre maintenant? C'est-à-dire, il y a eu une époque dans les années 90 où il y avait toute une médiatisation des médecins du sida. Il y a eu des choses très bien qui ont été faites. Il y a sûrement des choses qui n'ont pas été bien aussi. Je pense notamment aux médecins de cœur à Montréal, où bon, les gens autour de la clinique de Régent Thomas, et je pense à ce médecin Michel Marchand, je crois qu'il s'appelait, qui est mort, lui, du sida.
Qui était le fondateur de
Voilà,
la clinique.
voilà. Donc, à cette époque-là, on avait l'impression que parler du sida était un peu une nécessité. Là, ma question, c'est maintenant, il y a sûrement une nécessité parce que vous avez écrit ce livre l'année dernière. Quelle est-elle cette nécessité pour vous? Pourquoi vous sortez un peu de l'ombre parce que vous n'avez pas été vous êtes médiatisé comme ça? Pourquoi sortir de l'ombre pour parler de ça maintenant?
D'abord, on sort de l'ombre parce qu'on peut en sortir. Qu'au début, j'ai travaillé, j'ai repassé des examens, j'ai passé des concours pour avoir des bourses de recherche et des salaires de recherche qui permettent au moins d'avoir du temps pour faire de la recherche. Et c'était l'activité principale et mon but premier. Avec le temps, c'est sûr qu'on a un regard et que souvent, je me rappelle quand les gens étaient au plus malade, au plus sombre de l'épidémie, je me disais peut-être pour me soulager. Il faut que je me rappelle de cette époque parce qu'il y a un moment où je dirais aux futurs étudiants en médecine, vous vous rendez pas compte, mais à un moment donné, les gens étaient tous maigres, mourants, c'était horrible, vous n'avez pas connu cette époque, et moi j'étais là. Et je me disais ça peut-être sur une mode de défense en disant ça me permet de tenir ou d'imaginer qu'il y a une dynamique et qu'il y aura des changements à une époque où ce n'était pas du tout perceptible qu'on allait y arriver. Puis soudainement, dans les années 96, la trithérapie a vraiment marché. Puis là, il y a eu des améliorations fortes. Donc à ce moment-là, cette souffrance intense et des soignants et des gens malades s'est améliorée. Puis l'amélioration crée un silence. C'est-à-dire, dès qu'on va mieux en médecine, on parle moins parce qu'il y a un succès. Et le succès amène un silence des soignants. Et souvent, on dit, ah, ben, le virus est endormi, il est bloqué, et donc on n'a plus grand-chose à dire, puisque biologiquement, tout va bien. Donc, succès égale silence. Et je me suis dit, quand même, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, ça devient maintenant comme quelque chose de moins important, quelque chose qui n'a pas vraiment existé. Tous les combats politiques et des droits des personnes à être soignées et tout, on oublie que rien n'était évident. Et ceux qui apprennent la médecine aujourd'hui, ben c'est normal qu'on les traite, c'est normal qu'on s'en occupe. Alors que je peux vous dire que même ici, à côté, à l'Hôtel-Dieu, selon les médecins et les endroits, et au Royal Victoria, c'était pas évident il y a 15 ans, ce qui n'est pas très long. Et ce changement, je pense qu'il faut le rappeler et que ça ne s'est pas fait que dans la gentillesse et l'harmonie. C'était un combat parfois acrimonieux et qui a porté fruit. Et je pense que c'est aussi de se dire que dans des moments où tout semble désespéré, ces combats, ces agitations, ces trucs qu'on peut voir dans des parlements, dans des politiques, à des moments où on demande ce qu'ils font, ultimement, ce dialogue peut porter à un fruit, à un progrès, et après on oublie tout. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un besoin de témoignage.
Oui, ce besoin de témoignage, alors je trouve qu'il est très fort à la fin de votre livre, surtout quand vous parlez de. C'est pas bien sûr j'imagine, le vrai nom de vos patients, mais vous parlez de vos patients, c'est à la lettre, parce que c'est un abécédaire, votre livre, donc c'est à la lettre W, X, Y, Z. Vous commencez, je pense, c'est Wendy, Xavier, Yves et Zoltan. Et vous commencez à parler des patients, à écrire, pardon, sur les patients que vous avez connus, sur certains. Beaucoup sont morts. Non. Et là, je trouvais que il y avait. C'est un témoignage, mais c'est aussi. Il y a quelque chose de. Permettez-moi de vous dire qu'il y a, quelque chose de l'écriture qui se fait beaucoup plus grand dans votre texte. À ce moment-là, j'ai l'impression que vous. Vraiment, vous quittez votre place de médecin, de maîtrise, et c'est très bien parce qu'on aime beaucoup ça, mais que vous laissez la parole. À travers vous, il y a quelque chose de ces gens qui sont morts ou qui sont encore vivants qui parlent. Et là, je me disais, bon, je voyais vraiment une similarité dans notre travail, c'est-à-dire le besoin de laisser ces voix encore retentir dans la cité. Hein? Et ça, est-ce que vous voulez en parler un peu?
Oui, non, je pense que ces moments, d'abord, c'est pour moi aussi de dire que ça m'a touché, j'ai été triste, j'ai été malheureux, et aussi que je ne suis pas malade, je ne suis pas en thérapie. Parce que souvent, j'ai vu écrire des médecins ou écrire des œuvres littéraires ou des réflexions de très haute qualité à travers une crise qui souvent les empêchait de faire la médecine et étaient dépressifs et ont remonté par l'écriture, et ce qui est tout à fait intéressant. Mais j'espère l'avoir fait en façon en n'étant pas en arrêt de travail, mais en travaillant normalement. Donc c'est pas un état quand même extrême de souffrance ou de gravité. Mais pour moi, c'était important de pouvoir dire des choses qu'en général, c'est des médecins malades ou souffrants de ce qu'ils ont vu et survécu qui sont capables de le dire. Donc ma prétention, si vous voulez, c'est de pouvoir dire, en étant à peu près normal, c'est pas parce qu'on est normal et qu'on fonctionne qu'on est incapable d'avoir des sentiments, qu'on est incapable d'être blessé, qu'on est capable quand même de cicatriser et de continuer, mais qu'en général, quand on fonctionne, on le dit jamais. On le dit que quand il y a une grave crise. Donc je suis content de ça, de témoigner au moins que quelqu'un qui fonctionne peut avoir des sentiments et qu'on n'est pas... Parce qu'on me l'a aussi reproché, comment tu peux parler sans avoir eu un cancer, sans avoir eu le sida, et au nom de quoi on a le culot de parler de la maladie qui est la grande expérience de l'impuissance et qui est, comme certains citent, l'exil en maladie. Donc, en étant extérieur, comment on peut bien parler des gens malades sans l'être? Et les gens en soins palliatifs, les médecins qui se rapprochent un peu de cette démarche, m'ont souvent dit ou m'ont souvent fait comprendre que eux qui avaient eu un cancer, qui s'en étaient sortis, étaient des médecins par leur souffrance, qui étaient capables de recevoir la parole de l'autre ou du patient. Et que le médecin jeune ou encore bien portant, indirectement, ils ne l'ont pas dit, mais c'est ça que j'ai compris, n'était pas capable finalement de vivre et d'avoir des sentiments. Finalement, l'expérience est-elle communicable? C'était ça la question qui était sous-jacente. Est-ce que je suis content, au moins ou partiellement, de se dire, on peut quand même témoigner de quelque chose sans forcément être à fond dedans et de défendre ses intérêts immédiats ou de son groupe ou de sa communauté, ce qui n'est pas le cas pour moi, et d'au moins qui est l'intérêt de la personne humaine en général et d'un témoignage possible sans avoir, comme disent les alcooliques anonymes, discrètement, par métaphore, avoir connu la problématique. C'est-à-dire que si on n'a pas connu la problématique, a-t-on le droit d'ouvrir la bouche ou d'écrire? Je pense que c'est ça la question pour moi de la communication et des exemples de personnes que je rapporte à la fin du livre.
Alors, avant la fin du livre aussi, il y a un passage qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, mais qui montre aussi votre travail de mémoire, mais une grande franchise aussi. C'est à un moment donné, vous racontez, je pense que c'est le patient, vous l'appelez Joël dans ce livre, où il y avait eu l'enregistrement des derniers moments de sa mort. Il y avait une cassette qui, sa copine ou sa femme avait mis une cassette, j'ai pas retrouvé le nom, de méditation avant de mourir. Et bah, racontez aussi ce que vous avez fait de la cassette après. Et parce que vous
Non,
le
mais
dites.
c'est-à-dire, c'était pour moi probablement un des premiers deuils, et je le dis, est-ce que comme jeune médecin, c'est bien de faire ça? Je sais pas. Donc, j'étais copain d'un copain qui avait ce sida. Donc, je le connaissais parce que c'était Aix-en-Provence. On avait des copains communs. Il avait aussi 26 ans. Les deux premiers avaient 26 ans comme moi. Et donc, il est malade, il s'aggrave et il est amoureux d'une femme hollandaise. Donc, par définition, vous savez, les Hollandais, c'est le peuple le plus grand de la planète. Donc, il devait faire 1,65 m, elle devait faire 1,85 m. Et c'est sûr qu'elle était blonde, il était brun. Et puis après, il est devenu très malade, ils n'allaient pas tellement bien ensemble. Et donc, il a décidé à la fin de mourir et de mettre fin à sa vie ou d'en finir avec des contrôles de sa douleur et de se retirer. Et donc, il y avait une sorte de journée un petit peu commémorative. On était venu avec le chef de service le visiter, puis l'arrêt des soins actifs, la morphine pour la contrôle de la douleur, qui comme il était tellement faible et respirait avec difficulté, ça peut aggraver la durée de vie des gens, quitte à ce qu'ils dorment, mais en dormant, il y a une manque d'oxygène et ça peut aggraver de quelques heures le départ. Et il avait mis une cassette. Et il est mort là, à la fin de la soirée, ce qui a été excessivement difficile pour moi et j'ai pleuré. J'ai pas tellement pleuré souvent dans ma vie pour l'instant. Et la cassette m'a été donnée. Et dans le livre, quand on voit j'ai pu être capable de jeter la cassette à peu près 2 ans après. En fait, c'est quand j'ai déménagé pour venir à Montréal. Et dans le déménagement, j'ai retrouvé cette cassette. Et pour moi, ça reste une joie immense que d'avoir été capable de la jeter, c'est-à-dire de finir le deuil, de prendre à distance avec un objet physique qui était proche dans la maison, et de le mettre à distance, de le jeter, de m'en débarrasser, et de passer à autre chose, et de finir peut-être un deuil, même si c'est jamais fini, mais de surmonter quelque chose qui avait été beaucoup plus fort que ce qu'aurait dû être. Et en plus, j'avais été au cinéma avec lui, j'avais été prendre un café avec lui, ce qu'on fait rarement quand les patients sont hospitalisés. Je ne vais pas tout le temps au restaurant ou avec les patients. Ça arrive moins parce qu'ils vont mieux, mais c'est arrivé. Et donc, c'était le début. Donc, c'était une force émotive énorme. Et j'ai presque juré devant lui que, c'était pas juré, mais de dire que oui, il avait un cancer et le VIH et que il fallait que la nouvelle génération, les nouveaux médecins, ben, fassent tout pour que ça change. Et c'était sur la place de la mairie à Aix-en-Provence où je lui ai dit, ben, oui, je vais essayer, je vais. Je sais plus si je l'ai vraiment dit ou je me dis à moi-même, je veux que ça s'arrête et je vais faire que mon métier ou que mon effort porte pour qu'au moins ce type de drame soit moins fréquent ou aille mieux ou partiellement mieux. Donc ça a été à la fois de vivre un deuil, de vivre peut-être comment dire, comme être adoubé, comme être validé en disant, mais va là. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a dit ou moi qui l'ai compris tout seul en le voyant. Et je me rappelle cette phrase, il était tellement maigre et il me dit, je peux pas rester assis parce que quand on est maigre, on a mal et on est incapable de rester assis. Et on méprise toujours le gras alors que ça a de grandes vertus. Et ça, c'était à ce moment-là. Et donc, c'est comme un départ en mission. C'était comme un 31 juillet quand les jésuites partaient en mission. Donc là, ça a été mon 31 juillet, d'une sorte de départ en croisade pour essayer que il n'y ait pas d'autres cas comme lui. Et la difficulté, c'est qu'il est mort, que j'étais assez copain avec lui. Il était assez fascinant, très instruit, intelligent, avec cette grande femme blonde et belle et froide des plaines du Nord. Et la cassette était ce souvenir affreux de cette première mort que j'avais vue, mais arrangée. C'est-à-dire, il y avait de l'encens, et il parlait de la mort. Alors que tous les gens en France à l'époque, même les cancéreux à 75 ans et 80, avec des métastases, on disait c'était l'ostéoporose, on ne sait pas ce que vous avez. Le mot cancer n'était même pas dit. Et que là, dans un contexte VIH, tout était dit, et qu'il était capable d'affronter sa mort. Il avait eu aussi le culot de préparer les cartes de deuil, de faire part, qu'il avait lui-même écrit, choisi les poèmes, choisi la musique. Et c'est pour ça que je dis, et j'ai dit à ma femme, quand je meurs, je ne prévoirai rien. Il n'y a rien de plus pénible, à mon avis, son erreur qu'il a fait, c'est d'avoir cette conscience froide de sa mort et d'emmerder ou d'influencer les gens après sa mort. Si on meurt, on n'est plus là et il faut plus qu'on ait de prise sur les autres. Et c'est aux autres à s'occuper de vous, de votre corps, de votre musique, de ce que j'aurais aimé. Et ça, je pense que c'est des deuils terribles pour sa femme ou pour les gens plus proches, quand en plus on organise de façon froide, intelligente et belle, avec la musique, Mozart, le Requiem, tout était organisé de façon distinguée, élégante et terrible. Parce qu'il y a cette vie qui vit après la mort, et la mort arrête la vie, et il faut l'accepter, c'est ça le travail du deuil. Ceux qui sont plus là ne sont plus là, et pour moi, ça a été physiquement de découvrir ça, de jeter la cassette.
On jettera la cassette, je vous le promets, nous aussi. Mais je voulais justement vous entendre peut-être sur la distance, sur l'empathie en tant que médecin. Justement, vous dites, mais ce n'était pas vraiment des erreurs. Dans le livre, vous le dites à 2 ou 3 fois, mais vous vous interrogez sur cette proximité que vous avez développée avec certains malades. En même temps, même à un moment donné, vous vous dites peut-être même mes enfants, je les ai mis dans cette histoire-là, j'aurais peut-être pas dû. En même temps, on sent dans le livre que c'était inévitable, que vous ne pouviez pas, qu'il y avait certains qui appelaient ça, ou que ce type de maladie nous appelait ça. Qu'est-ce que d'habitude on conçoit le médecin comme quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie. Je lisais, j'avais lu que Hippocrate disait que le médecin devait toujours être bien portant parce qu'il devait montrer la santé. Avec les médecins de cœur, c'était le contraire. Il fallait pas, au contraire, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous, comment est-ce que cette distance du médecin, comment vous avez pu la vivre toutes ces années-là?
Quand on le vit au quotidien, j'ai pas vraiment réfléchi. C'est maintenant, a posteriori, qu'on pose la question, qu'on essaie de trouver des mots. Je pense qu'il y avait une sorte de fascination, mais la fascination s'étendait au-delà du patient. C'est-à-dire qu'à cause du sida, j'ai rencontré des psychiatres, j'ai rencontré des infirmiers, des soins aux personnes toxicomanes, des ethnologues, des gens que j'aurais jamais vus. Et il y a eu autour, à cause de l'épidémie, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort multidisciplinaire qui dépassait la médecine et les soins, parce que la maladie était contagieuse. Ce n'était pas comme un cancer, qui est très grave aussi, mais on ne le donne pas aux autres. Tandis que là, c'est une maladie très grave, qui est un peu comme le cancer, mais qui est transmissible par le piège le plus important de la vie, qui est l'amour ou les relations sexuelles. Donc, c'était le patient, là on voit le patient, mais on oublie tous les autres qui suivaient, c'est-à-dire les intervenants sociaux, tous les autres groupes. Donc c'était aussi un élément, j'étais comme emporté dans une culture ou une sous-culture médicale au sens large, c'est-à-dire de soutien des personnes ayant cette maladie. Et donc c'est ce courant qui m'a emporté peut-être aussi fort que les patients. Et parce que les autres aussi avaient cet intérêt et qu'il y avait cette médecine, qu'en fait j'ai rêvé en première année de médecine, je pensais que la médecine c'était comme ça. Puis quand j'ai vu que la médecine c'était très technique et les gens faisaient des actes et c'était pas leur spécialité, ils s'en fichaient un peu, ça m'a profondément déçu. Je pensais que c'était plus littéraire, plus romanesque. Alors peut-être le sida pour moi a pu redécouvrir une image théorique ou romanesque de la médecine que j'avais, qui était pas très réelle, et que j'ai rebâti à travers la nécessité du sida et de son aspect vraiment multiculturel, ethnique, enfin transspécialité. C'est rare qu'on voyait qu'on discutait avec des psychiatres, la santé publique, la prévention, le gouvernement, la mairie, des trucs où normalement un médecin, on ne fait pas ça, ils sont tous très jeunes, on fait ça peut-être à la fin, quand on a des budgets à gérer, des trucs avec le gouvernement, mais pas quand on est étudiant en médecine ou résident. Donc j'ai fait un petit peu le début, c'était comme une fin de carrière pour d'autres, c'est-à-dire de sortir du mandat propre. Mais comme les autres n'y allaient pas ou qu'il n'y avait personne, ben j'ai fait ça et ça a été une fascination de l'esprit, si vous voulez, d'interagir avec la société, avec le droit. Par exemple, c'est grâce à une réunion que j'ai organisée à Aix que le secret médical vis-à-vis du sida a été accepté comme tel par le Collège des médecins français et après par une commission européenne. Et le génie, c'est simplement que le médecin chef de l'ordre en France avait une maison à Aix. Et quand je l'ai invité, il a pu venir payé par l'ordre, il avait le week-end après chez lui. Et c'est grâce à ce petit twist, petit truc, que la réunion a eu lieu en France, que je l'ai organisée comme interne, et que ça a fait changer la loi, enfin c'est lui qui l'a fait, mais stimulé par un truc que j'avais organisé. Alors c'était un peu fou que. Puis il y a quand même des examens en médecine à passer, à réussir. Donc c'était un peu faire l'école buissonnière, faire des choses qui ne sont pas vraiment scolaires, parce que mon premier but était d'avoir un diplôme. Donc c'était un petit peu.
Il fallait inventer, il fallait réinventer, il fallait penser. Vous avez cette phrase qui m'a beaucoup troublée dans votre livre, c'est « Il existe aussi une séduction du mourant hein, ». Et même, je dirais même, une séduction du mort, peut-être aussi. Hein, est-ce que le médecin cède parfois à cette séduction du mourant?
Absolument. Puis alors, j'ai vraiment compris ça en retournant le livre, en lisant votre livre ici, donc sur le deuil cannibale et mélancolique, ou la séduction du mourant. Alors, la séduction du mourant, c'est que quand les gens sont gravement malades, en général, on fait tout pour eux, on tout essayer de faire, même si c'est après l'heure, et c'est les infirmières, c'est les médecins. Quand il y a quelque chose de grave, la plupart du temps, peut-être pas toujours, on se lève le cul et on fait des choses que normalement on ne fait pas. Et il y a donc quelque chose de pas de magique, mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait faire des choses plus difficiles et que l'on fait relativement volontiers. C'est-à-dire que. Et donc, il y a une transcendance, un dépassement, parce que c'est grave et donc on peut faire des entourloupettes au règlement ou des choses comme ça. Parce que c'est grave et que le moment est assez unique. Et ce qui est fascinant pour moi, ça a été de voir des grands mourants, jeunes évidemment, parce qu'ils avaient le sida, et des visiteuses ou des personnes qui passaient à côté tomber réellement, comme on dit, amoureux, fourraides, là, tomber amoureux. Et deux fois, une fois en France, avec une visiteuse qui était plus âgée que Yvan, c'était son vrai nom. Qui avait 15 ans de plus. Vous savez, quand vous avez 25 ans, 15 ans de plus, c'est très vieux. Et cette femme, qui était mariée, qui avait une belle maison, qui s'est amourachée de lui. Et moi, je me disais, c'est quand même curieux. Il est laid, il va mourir. Elle est belle, elle a une belle maison, une villa à Aix. Ça coûte très cher. J'avais du mal à comprendre. Et ça m'a choqué. Et à Montréal, il y avait c'était son père qui était malade. Et lui était dans le lit à côté. Et là, il a fallu qu'on ait une réunion avec les travailleurs sociaux pour dire, mais si on ne dit rien. Et qu'ils sortent le week-end ensemble, parce qu'il était quand même assez bien pour sortir. Et s'il infecte, on est comme complice de pas avoir divulgué ou d'essayer que lui divulgue. On ne voulait pas non plus briser le secret médical, mais de l'encourager à dévoiler lui-même qu'il était HIV, et que si il s'avérait qu'ils allaient faire l'amour, qu'on ne fasse pas des petits, quoi. Alors, il y a eu cette réunion en urgence. Et où c'était vraiment. Puis alors, moi, j'ai écouté, là, j'ai pas ni l'expérience, ni le truc de ces travailleurs sociaux admirables de l'Hôtel-Dieu, c'était Jacques Briand. Et lui, alors, il a dit à la fille, ils sont sortis, évidemment, donner des préservatifs ou condoms, tout ça. Et cette fille l'a vraiment aimé, j'en suis certain. Et il était ni beau, ni forcément brillant et intelligent. Elle était beaucoup plus belle et plus fine, comme on dit, que lui. Et elle est tombée amoureuse alors qu'elle visitait son père malade. Et donc, c'est quand même curieux qu'il y ait ce côté. Mais je pense qu'il y a un absolu et à la fois, il y a une dépendance de l'autre. C'est-à-dire que c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui va moins vous demander en échange. Je pense qu'on peut citer Camus ici, on est quand même chez Gallimard. C'est que lui dit que c'est plus facile d'aimer les gens qui sont morts. C'est pour ça qu'on dit il est formidable, il est gentil, il est extraordinaire. Parce qu'un mort ne va rien vous demander en échange. Il n'y a pas d'engagement réciproque, il n'y a pas de co-engagement. Et c'est pour ça que c'est un amour unilatéral, où c'est comme aimer un jeune enfant malade. Il va ni vous agresser, ni vous en vouloir, ni se rebeller contre vous, au moins au début. Donc, il y a une facilité et parfois une fascination d'aimer celui qui est théoriquement faible et qu'il faut peut-être qu'il y ait ce passage bilatéral, c'est-à-dire que si on aide, il faut psychologiquement se mettre en position d'être aidé ou d'apprendre de l'autre. Et s'il n'y a pas ce pont, il peut y avoir une perversité et des émotions et des sentiments et d'une véritable prise de puissance sur l'autre qu'on garde, qu'on s'occupe, mais qu'on est totalement en contrôle, comme quand on a un bébé, un petit bébé. Et il y a, à mon avis, cette séduction qui vient, à mon avis, de l'état bébé, de l'état limité et dépendant. Et je pense que le malade, c'est quand même l'incarnation de l'impuissance, et celui qui l'aide peut, par certains débordements, en tirer du pouvoir, en tirer un contrôle, en tirer une satisfaction. Et il faut faire attention, et j'ai souvent quand même réfléchi à ça quand les gens me disaient que c'était bien, que j'avais aidé, de me dire, je ne peux aider que si moi je reçois quelque chose en échange. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un échange vraiment, au moins symbolique, ou au moins dans ma tête des fois. Si eux pensent que je donne, c'est que moi je prends aussi. Et que c'est que dans cette relation-là que je peux m'en sortir, moi, à long terme, sans devenir un démiurge ou quelqu'un qui pense changer le monde ou les gens. Parce qu'on peut se brûler à ce rôle du pourvoyeur de soins. Et ça a été étudié par des psychologues et tout. Et donc le pourvoyeur de soins, à mon avis, ne peut exister longtemps que s'il est receveur d'une nouvelle vision, d'une information, d'un changement intérieur, d'un voyage intérieur que lui fait faire sa relation, qui peut être codépendante ou inégale. C'est en ça où c'est particulier.
Mais la fascination du mourant aussi, pas pour le médecin, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement quelque chose comme Eros et Thanatos, dont Freud parle. Il peut y avoir quand même une fascination érotique de la mort aussi. Je parle pour cette femme très belle que vous décrivez. Il y a peut-être ça aussi, mais peu importe. Mais ce que je pensais aussi, parce que vous écrivez ça, et puis en même temps, justement, de l'autre côté, vous avez gardé un œil assez objectif sur ces patients. Il y a comme un double mouvement dans votre écriture. Et vous écrivez quelque chose aussi qui vient un peu me déboussoler, parce que ce n'est pas le mythe qu'on a, mais vous parlez de la non-grandeur des mourants. C'est-à-dire qu'ils sont, et c'est pas la non-grandeur, parce que ça, je m'en doute bien, mais vous dites, on me demande parfois si les jeunes qui savaient qu'ils allaient mourir étaient révoltés contre leur sort, parce que moi, j'ai beaucoup imaginé la colère, hein. Et vous continuez, pour ma part, je ne l'ai jamais ressenti ainsi. Je pense que l'acceptation de la mort se faisait progressivement durant cette époque où il n'existait aucun traitement. La révolte est un acte de bien portant, hein. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
C'est dans la littérature, on a évidemment Hervé Gibert qui en parle et qui est peut-être le révolté type. Et j'en ai jamais vu. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ont écrit, qui ont eu ce regard excessivement froid et terrible. Et j'aimerais juste quand même, puisqu'on le parle, le citer un tout petit peu. Je ne savais pas non plus à quoi m'en tenir sur rien de ces questions cruciales, sur cette alternative à la condamnation et sur sa rémission. Je ne sais si ce salut est un leurre qu'on a tendu devant moi comme une embuscade pour m'apaiser, ou s'il est pour de bon de la science, fiction, dont je serai un des héros. Je ne sais s'il est ridiculement humain de croire à cette grâce et à ce miracle. Donc il parle finalement que lui-même est fasciné, et puis si on veut citer Julia Kristeva, au moins le titre de son ouvrage, avec cet incroyable besoin de croire. Et lui, il montre peut-être mieux que quiconque que On a besoin de croire que lui-même est fasciné par ça et qu'il s'en défend en disant il n'y a rien, c'est un monde froid et rationnel. Et tout, et il le dit très bien, je pense qu'il est ridiculement humain de croire à cette grâce ou à ce salut possible. Et je pense que là, on touche un point très important qui est aussi à quoi on se raccroche. Y a-t-il une espérance obligatoire? Est-ce que l'espérance est un leurre? Et lui le dit. Maintenant, les personnes que j'ai vues, peut-être parce que j'étais médecin et que je n'ai pas bien su les écouter, j'aurais aimé que les gens me disent « Écoute, tu es jeune, j'ai beaucoup fait de trucs, voilà ce que j'ai appris, retiens cette phrase. » Et ça, j'aurais aimé, ou même toujours, je me dis, tu sais, le type, il va résumer ce que vraiment la vie lui a apporté en trois phrases. Je ne le vois pas, mais peut-être je suis maladroit pour recueillir l'information. Mais c'est vrai que quand les gens sont malades, il y a ce rétrécissement du champ de conscience. Alors peut-être que là, c'est 1 ou 2 mois avant qu'il faut en discuter. Quand ils sont hospitalisés, ils sont peut-être trop malades. Mais il n'y a pas ce que la littérature nous a appris. Évidemment, on lit Tolstoï, on lit ces passages de Ivan Illich, tout ça. Alors, on s'attend à ça. Mais Tolstoï était médecin. Il a écrit relativement bien portant sur la mort d'Ivan Illich. C'est pas Ivan Illich mourant qui a écrit. Et c'est sûr qu'il y a, à mon avis, une dissociation. C'est que soit on peut écrire tôt, c'est-à-dire 3-4 mois avant d'être très malade. Et quand on est très malade, soit on parle peut-être à certains de ses amis et pas à ses médecins, où le médecin se cache derrière des actes thérapeutiques nécessaires, mais peut-être pas suffisants. Mais j'ai trouvé ça rare, difficile et honnêtement un petit peu décevant. Je m'attendais à plus de mots sur les fins de vie en me disant « voilà la phrase essentielle que tu dois retenir de ce que la vie m'a appris ». Alors, peut-être, mais c'est rare.
Vous, par contre, vous montrez une certaine colère contre les guérisseurs. D'ailleurs, vous faites « j'ai comme guérisseur » dans votre abécédaire. Vous écrivez « je leur en veux ». Hervé Guibert, justement, avait été voir un guérisseur en Tunisie. Et bon, lui, il en voulait pas parce que bon, il savait très bien à la fois que c'était désespéré, mais bon, il espérait un peu quand même. Vous, pourquoi vous en voulez à tous ces charlatans qui ont profité d'une certaine façon
Bon, je pense pas que leur démarche était de profiter, qu'eux-mêmes avaient quelque chose de comment dire, faire ça pour l'argent, pour vendre des produits. Je pense pas du tout. Et ceux que j'ai rencontrés croyaient à ce qu'ils faisaient et c'était de bon cœur et honnête. Alors là aussi, avant de faire médecine, je m'intéressais un peu à la psychologie, aux trucs comme ça. Et j'ai trouvé que la médecine alternative et le père de mon patron était homéopathe. Donc même si mon patron faisait des chimiothérapies, son père qui était mort d'un lymphome était homéopathe, était le grand homéopathe d'Aix-en-Provence. Et donc à mes débuts, j'ai été influencé par l'homéopathie, une approche plus globale dont il parlait tout en faisant la chimio, les traitements conventionnel que l'on fait. Donc j'ai quand même eu cette sensibilité, cette ouverture. J'ai même acheté le bouquin, le Duprat, là, qui est là, le livre de référence d'un certain courant homéopathique, et que j'ai lu avec attention sur les dilutions. Donc j'ai eu une curiosité, puis de voir que par les questions, par la finesse de l'interrogation, on voit la personne dans sa globalité, dans son habitus, dans des structures de gros, maigre, tu aimes le sucré, tu aimes le salé, la morvelle passe par devant, passe par derrière, même truc qui semble un petit peu, ma foi. Mais tout ça m'a fasciné. Alors les gens sont venus, les patients mouraient, et donc on a dit, et mon patron était très, très ouvert, on a essayé les boules de gui, ça n'a pas marché, on a essayé des médicaments homéopathiques qu'on a donnés, puis moi je disais, donnons-le, puis on va mesurer sur les tests immunitaires si ça fait quelque chose. Nous, on fait la mesure et on peut faire l'intervention. Donc, il y a eu tout ce courant. Et ce qui était assez fascinant, c'est que tout ce qui marchait pour le cancer allait marcher ou allait être essayé pour le HIV. Hein, des maladies dégénératives, des maladies chroniques. Alors, rien que les mots, le mot dégénératif. Hein, vous savez, c'est Hitler qui a imposé à des artistes dégénérés de faire une exposition. Il les a pas interdits, il les a fait voyager dans toute l'Allemagne en 38 à peu près, et ça a été présenté ici au musée à Montréal. Et donc, le mot dégénératif, déjà, on ne peut penser qu'à Hitler et à l'art dégénéré que certains Allemands peignaient à cette époque. Donc déjà, il y avait un contexte anthropologique ou culturel ou sociologique de dire, bon, on utilise des mêmes mots, le cancer est une maladie dégénérative comme l'arthrose et le sida. Donc déjà, il y avait toute une... Les mots étaient là et on les a copiés-collés sur le sida et les médicaments ont suivi. Et les thérapeutes ont suivi avec le même enthousiasme, la même aide. Ils ont aidé les patients, ils étaient à leur chevet et ça, je leur admire et ils étaient là, ils ont aidé, ils ont poussé à la roue. Quand les trithérapies sont venues, quand les patients ont allé bien, là aussi, le succès amène à la fois le silence et fait partir les thérapeutes alternatifs. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils partent? Moi, j'aimais bien, ils venaient, ils trouvaient que je pouvais discuter avec eux, j'aimais bien. Et quand ça a marché, ils ne sont plus jamais venus. Et c'est là où je leur en veux. Et je leur en veux aussi pour une chose, c'est l'ulcère de l'estomac. Vous savez qu'il y a eu un prix Nobel qui a été donné à un médecin australien pour avoir découvert que l'ulcère de l'estomac est dû à une bactérie et que l'on traite maintenant avec 10 jours d'antibiotiques. Et on ne fait plus de gastrectomie, on ne saigne pas, on ne meurt pas. De 2% des gens qui avaient un ulcère mouraient il y a encore 30 ou 40 ans. Maintenant, on fait une endoscopie, on fait la biopsie, on trouve le pylori et puis on donne les antibiotiques. Là. Alors, c'était la seule maladie que les médecins conventionnels pensaient que c'était la psychosomatique. C'était l'exemple que même ceux qui étaient contre la psychosomatique ou la médecine parallèle reconnaissaient qu'il y avait un lien entre l'esprit et le corps par l'ulcère de l'estomac. Quand le prix Nobel a été nommé, quand les antibiotiques sont là, quand tout fonctionne, personne a fait mea culpa, personne n'a dit un mot. Eh bien, ça, j'en veux de ça. Et qu'il y a d'autres choses, et je ne dis pas que toutes ces approches sont inutiles et ont permis de rendre les hôpitaux plus humains, plus ouverts, d'écouter les personnes et leurs besoins, ou l'idée qu'ils ont de leurs besoins. Et je trouve ça fascinant. C'est ce qu'on appelle en anglais les health beliefs, les conceptions culturelles, cosmogoniques, enfin, qu'on a de la maladie et de pourquoi on est malade. Donc c'était avec eux qu'il y avait ce dialogue et ça m'a toujours fasciné. Mais quand il y a du succès, ils disparaissent. Et sans qu'un dise, ben, on s'est trompé, ou c'était pas le bon sujet. La dégénération, maintenant que c'est une bactérie ou un virus, ben, c'est pas la vraie dégénération, ça n'intéresse plus. C'est là où je pense, et j'ai le courage de le dire, que je trouve que c'est une malhonnêteté. Mais comme il faut être gentil, comme la télévision, il n'y a qu'eux qui parlent, c'est contre le courant. Mais je pense
Il
que
y a quand même
c'est...
quelques médecins à la télévision.
Oui, mais je trouve que c'est un courant de pensée et que quand ça marche, ben tant mieux, mais il n'y a pas de preuve officielle. Et que quand ça ne marche pas, jamais il y a des excuses ou même des publications qui disent oui, c'était pas ça. Alors que ça paraît ne pas être ça. C'est là où j'en veux, mais je suis quand même fasciné par leur approche et par les concepts liés autour de l'état de maladie, qui sont plus intéressants que des gènes ou des trucs qui tournent mal.
Alors, vous vous en voulez aussi un peu quand même à vous, enfin vous demandez s'il faut vous en vouloir, parce que vous écrivez, il m'est arrivé comme médecin d'être fier d'avoir repoussé la mort chez certains patients atteints de sida avancé, alors que parfois le patient me disait, mais pourquoi avez-vous prolongé ma vie? Pour montrer quoi? Votre puissance thérapeutique, alors que ma vie n'a plus de sens, alors que je suis sans force et que la laideur physique et l'horreur se sont abattues sur moi. Plus tard, vous écrivez, bien des médecins et des soignants se sont alors interrogés, est-ce qu'on n'agit pas uniquement pour notre propre gloire ou encore pour vaincre nos propres peurs? Est-ce que ça, cette question-là, est-ce que vous vous la posez encore? Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose face au sida?
C'est-à-dire, pour un médecin, c'est toujours facile de faire. Et pour un chirurgien, c'est pareil. Quand on ne sait pas, on opère. La maturité ou ce qui est décidé, non, mais ce qui est décidé dans des réunions, on a des réunions de. Ce matin, il y en a une. C'est le fait de réfléchir à plusieurs, c'est. Pas toujours d'agir, d'attendre ou de voir ce qu'il faut faire, mais il est assez facile, dès qu'on a les techniques et qu'on sait faire les trucs, de faire. Et la vraie question, c'est faut-il ne pas faire et attendre et surveiller? Et ça, je pense que quand on progresse dans la carrière, c'est ça qu'on apprend. Puis les chirurgiens, on le sait, un chirurgien jeune va opérer plus qu'un chirurgien plus vieux, plus âgé. Et donc, il y a cette sagesse que. Et quand les gens meurent, le mieux, c'est de faire des tas de tests. Et il a fallu qu'est les soins palliatifs au Royal Victoria avec Balfour Mount pour qu'on dise aux médecins et aux jeunes médecins, arrête de faire des prises de sang parce que quel que soit le résultat, tu vas rien à faire, on est dépassé, il n'y a rien qui marche. Donc on commence depuis 15 ans à ne plus faire des prises de sang sur des mourants. Mais quand j'étais à Aix, ils mouraient avec des prises de sang du jour parce qu'il y avait toujours des choses qu'on voyait anormales et on essayait de les changer. Donc on était actif et plus on bouge, moins on est angoissé. C'est l'inaction et la réflexion qui créent l'angoisse. Quand vous débattez, vous essayez de résoudre quelque chose, l'action elle-même, la praxis, on est chez Gallimard, on peut utiliser des mots plus compliqués, la praxis fait que ça calme l'angoisse et que l'observation, la réflexion est anxiogène et qu'on va se dire « oui, alors tu n'as rien fait ». Alors faire quelque chose, bien ou mal, tu as fait quelque chose, tu as essayé de faire ton mieux avec ce qui existe, même si le patient est débordé, même si c'est, on dit maintenant en anglais, futile, la futilité des traitements. Et je pense que c'est ça qu'on apprend, et c'est ça que les soins palliatifs nous ont appris, un mouvement qui est né à Montréal et en Angleterre, de faire moins. Mais quand on fait moins, on est obligé de faire face à main nue. On ne se cache pas, d'ailleurs, va à la radio, va à l'écho, tu dois être à jeun, va passer l'arrêt RMN, le scanner, les prises de sang, 3 consultations de spécialistes. La journée est occupée, le patient, ben, on a tout fait, mais on ne lui a pas fait face, on ne lui a pas parlé, il n'est jamais dans sa chambre parce qu'il va à tous les tests. Quelque part, c'est plus facile, parce que quand vous rentrez à main nue et qu'il n'y a rien d'autre à dire que faire le bilan et de dire, ben, on peut calmer la douleur... On peut, voilà, c'est terrible pour soi-même. Là, je parle pour le médecin, c'est ce qu'il y a de plus difficile et que souvent on évite et d'essayer de ne pas, et on le disait souvent à la visite, de pas sauter la chambre de quelqu'un qui est mourant. Et la réponse facile, il est mourant, il dort, on va pas aller le voir pour pas le déranger parce qu'on a la trouille d'y aller et qu'on fait face d'abord à notre échec thérapeutique. Que lui pourrait aussi nous en vouloir en disant « Ouais, je meurs, c'est à cause de vous. » On a tous peur que les gens nous disent ça. Et qu'on ne sache pas lui répondre et qu'officiellement, en médecine, ça s'arrête quand le patient meurt. Alors on peut, grâce à Balfour Mount, à l'approche palliative, c'est de dire, et qui m'a aidé aussi, grâce à lui, que si on prépare le deuil, si on prépare l'après-vie, on a une espérance pour que, non pas pour lui, mais pour ceux qui vont rester, pour sa mémoire, ils vont avoir un deuil moins pénible, moins pathologique, et qu'il y a une espérance qui va survivre le patient en préparant le deuil de la famille et de ses proches.
Ça n'est pas en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure au début, où vous disiez que vous n'aimiez pas tellement ceux qui préparaient leur fin pour les autres. Il n'y a pas un peu d'un paradoxe là-dedans ?
Oui, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut à la fois préparer moralement les autres, mais pas s'imposer, c'est-à-dire de dire je veux telle musique, je veux tel truc, parce que quand les gens meurent, après la famille se déchire sur qu'est-ce que mon père aurait aimé, et c'est pas ça qu'il voulait, et il m'a dit que c'était ça, ça crée des troubles. Alors, je trouve qu'il vaut mieux pas trop en dire, mais de dire je veux rencontrer telle personne que j'ai pas vue, je veux essayer de parler. Et nous, la responsabilité, c'est de dire, faut pas trop dire quand les gens meurent et on le sait pas, mais c'est vrai, mais de dire bon, ça serait bien qu'ils viennent. Il y en a un qui est en Australie, tu dis ben fais-le venir maintenant, là dans un mois, fais-le venir maintenant. Donc on est aussi obligé de dire faites les choses maintenant parce que plus tard peut-être qu'on n'aura pas le temps. Donc il y a une obligation raisonnable de donner une information un peu plus précise pour que les membres éloignés viennent et qu'il y ait ce dialogue. Et pour moi, il y a une sorte d'espérance à travers le deuil parce qu'on se dit, ou on s'illusionne, comme dit Hervé Gilbert, sur une espérance qui peut suivre la personne, qui est très importante, à mon avis, psychologiquement, qui ne se discute pas pour moi et en général pas pour la société. Mais il y a ce discours qui aide et qui est fondé sur la continuité de ceux qui l'ont aimé.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que c'est difficile de ne pas intervenir et il y a des... Pourtant, il y a des... Les militants auraient pu vous apprendre à ne pas intervenir. Et je ne sais pas si vous parlez de ce patient activiste, Jean-Pierre Bellil, que j'ai connu aussi. C'est vrai qu'il était difficile.
Mais je lui demande pardon, je m'excuse.
Alors, racontez un peu, parce que lui, il ne voulait pas que vous interveniez.
Oui. Donc, c'est un... Parce que c'est un activiste québécois que beaucoup connaissent, qui était prof à l'université UQAM et qui était un stentor. Il faisait, je sais pas, il était grand, costaud, une voix énorme. Alors quand il était là et qu'il commençait à attaquer, c'était imparable. Comme il était universitaire, on ne pouvait pas trop lui dire, ou il utilisait les arguments épidémiologiques, statistiques, donc on ne pouvait pas se réfugier, d'ailleurs un côté un peu technique du métier, donc c'était très difficile, et donc il s'est opposé à certaines de mes études, et il a gagné, et peut-être qu'il a raison. Et donc de traiter tôt les gens, maintenant c'est ce qui est recommandé sur la planète, mais à l'époque, il n'y avait que moi tout seul qui pensait ça. Alors c'est sûr que les traitements étaient difficiles. Biologiquement, j'ai eu raison. Au point de vue de la tolérance, j'avais probablement tort, et de la résistance. Alors il y a eu des combats très difficiles. Puis comme jeune médecin migrant qui veut trouver sa place, il m'a quand même foutu l'étude la plus prestigieuse en l'air. Donc pour ma carrière, à court terme, il y a aussi un truc de carrière. Là, on ne fait pas ça que pour la gentillesse des patients. On a aussi une carrière de réussir, de faire... comme à l'université en littérature, là.
Non, mais j'ai rien fait de mal, moi.
Non, mais il y a une idée de promotion et d'avoir des fonds et de lancer des études au-delà de son centre, d'avoir... Alors c'est ça que j'essaie de faire. Et c'est vrai que la première grosse étude que j'ai eue, il me l'a fait arrêter. Et probablement Et je vois une pharmacienne ici, c'était DKT, DDI ensemble. C'est sûr que les deux médicaments étaient assez toxiques et que maintenant on ne le ferait plus. Alors,
Vous vous êtes
voilà.
excusé quand il était encore vivant?
Non, je suis excusé là.
Ah là,
Non, j'écris, j'espère me réconcilier avec lui au-delà de la tombe, si je peux m'auto-citer.
Ok, oui. Très bien.
Je sais par
C'est ce que
cœur.
voulais vous entendre dire.
Oui, donc. Et aussi. Et une fois aussi, où il a été dur, j'étais avec lui à Toronto. Et il y avait un salon pour les personnes atteintes, c'est comme ça qu'on dit, pour se reposer. Puis je discutais avec lui, puis il y avait beaucoup de monde dans les couloirs. Puis là, il y avait de l'eau, des fruits qui étaient organisés par le congrès. Et puis, je comptais rentrer avec lui, parce qu'on discutait, c'était intéressant de rentrer. Il m'a dit, non, tu peux pas rentrer. C'est un des seuls privilèges que nous avons, et c'est pour ceux qui ont le virus. Et ça m'a aussi surpris. C'est-à-dire là, j'étais comme exclu, comme bien portant de la salle où il y avait peu de monde, où je n'allais pas prendre la place de quelqu'un, ou le jus d'orange, ou le fruit. Et il m'a dit, non, tu rentres pas. Et ça aussi, ça m'avait surpris en disant, tiens, aussi, je suis exclu. Peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait une solidarité interne dans laquelle il y a peut-être une limite aussi où on ne peut pas aller. Il y a peut-être aussi d'accepter dans une relation différente, un patient et un médecin peuvent être des bons moments, des moments de conflit violent avec lui, mais aussi lui a mis les limites, tu rentres pas dans cette pièce. Et voilà, alors c'était des trucs comme ça. Et il était allé aussi à Marseille voir à Cassis, il était allé à Cassis, donc on avait discuté de Cassis. Pour un médecin, enfin un PhD, enfin un PhD, un chercheur qui aurait aimé avoir le prix Nobel avec les deux autres qui l'ont eu à Paris et qui l'a pas eu et qui s'en est jamais remis et qui lui avait des tests et alors il n'était pas médecin, ça le frustrait donc il faisait croire qu'il avait des tests pour prédire la rapidité d'évolution. Donc les patients venaient le voir. Il avait soi-disant des traitements, mais il n'avait pas le droit juridique de prescrire quoi que ce soit, donc il ne le faisait pas. Mais il était aussi flatté que des gens viennent d'Amérique le consulter. Maintenant, il est à la retraite. Il habite au bagne.
Je vais finir avec peut-être une dernière question très personnelle. C'est quel type de patient êtes-vous? Quel genre de. En fait, et quel est votre médecin un peu idéal? Peut-être c'est sûrement vous, mais quel est le. Quel est lequel? Parce que j'imagine qu'on veut devenir soi-même le médecin idéal, comme on a envie d'être le professeur idéal. Mais comment, en tant que médecin, êtes-vous patient ou impatient?
C'est-à-dire, bon, j'ai pas trop eu l'occasion d'être malade. Malade en étant terrorisé, que ma vie soit
On
bouleversée
touche
à
du bois,
jamais.
hein.
On attend et à force de voir comme les balles passent à côté, on va voir. Mais les quelques fois, c'est que je sois pas trop autonome. C'est-à-dire qu'à la fois, le patient idéal, c'est pas celui qui va tout vérifier sur Internet, où là, il y a une dualité d'égalité qui est très forte chez les Américains, enfin chez les gens des États-Unis, où c'est presque un contrat. Et si, et j'ai trouvé l'astuce pour les Américains, plus je leur dis qu'il y a des effets secondaires, plus ils sont contents. Et c'est vraiment extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Je suis sérieux. Je lis sur votre ton ironique, mais c'est vrai. Plus vous leur dites que ça peut donner ça peut faire ci, ça peut même entraîner la mort. Puis les publicités américaines sur
Ils
les
font comme ça.
médicaments, ils font comme ça. Et là, il dit, bon, il a bien expliqué, il a pris le temps. Même si, tu sais, si c'est 1 sur 10 000, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on va décider à partir de ça? Ça n'a pas grande valeur, à mon avis, dans l'acte décisionnel, mais ils sont contents. D'autres, il faut au contraire ne rien dire et dire, surtout des gens d'Afrique du Nord. Là, il faut faire l'inverse et de dire je suis le médecin, tu fais ça, et là, ils sont contents. Et si vous leur expliquez les effets, les trucs, ils disent mais écoutez, si toi tu le sais pas ou si tu me demandes des questions, qu'est-ce que je préfère, ça les terrorise. Donc, il y a des modèles culturels très forts qui répondent. Alors, il faut normalement répondre dans le modèle attendu culturel du patient pour être soi-disant un bon médecin. Donc moi, ce que j'attends d'un médecin le jour où j'imagine que je serai malade, si un bien portant, comme j'espère l'être encore, parce que j'ai eu mon assurance vie tout à l'heure au téléphone. Donc non, mais c'est vrai. Et donc j'ai l'assurance et j'ai pas eu de surprime. Donc c'est bon signe parce que l'assurance d'avant, l'assurance d'avant m'avait mis 50% de surprime, qui m'avait rendu furieux. Et donc, là, cet après-midi, et donc, c'est que quelqu'un qui décide et qui soit un peu paternel tout en expliquant et qui ne me dise pas, fais ci, lis ça, prends ta décision tout seul, ça, j'aime pas. Donc, je pense qu'il y a aussi, c'est pas en 15 minutes sur un site web qu'on va apprendre le métier de garagiste, quand ma voiture est en panne. C'est la confiance qu'on me dit que ce garagiste est bon, qui va me faire aller chez lui et je vais pas demander les détails. Et je pense que pour la médecine, à un moment donné, on peut évidemment expliquer, comprendre, c'est normal et nécessaire, mais que trop, il y a un acte, à mon avis, après de confiance tacite qui existe. Et c'est quand il y a ce lien de confiance que le médecin est à son meilleur, va faire, à mon avis, les meilleurs trucs, que celui qui a trop peur. Vous en méfiez, alors vous expliquez tout, puis il choisit, ou il fait ça, et vous dites bon. Et donc il y a cette relation à la fois de confiance, et à mon avis, plus on a confiance dans le médecin, plus il va en faire, plus il va, j'espère, donner le meilleur de lui-même dans ses connaissances, et en expliquant quand même des choix, quand il y a des choix possibles. Donc c'est quand même la confiance qui fait, à mon avis, le succès de la relation à deux. Qui nous fait aller plus loin et des fois nous a fait franchir des montagnes de façon extraordinaire par la confiance que les patients nous donnent. Et dans l'introduction, je le dis, c'est aussi pour ce que j'ai reçu et que la confiance donnée, c'est pas que des mots de politesse, c'est parce que ça donne une énergie qui est indépassable, qui est extraordinaire. Et ça, c'est à mon avis la beauté de la médecine, c'est cette confiance et qui vous pousse à faire plus, à aller plus loin. Et comme je leur dis, c'est parce que vous faites confiance que samedi, dimanche, je vais travailler et faire la recherche ou faire les trucs parce que en semaine, c'est très difficile. Et ça, je le fais ou ça me plaît que si je reçois cette sorte d'énergie qui me permet de travailler le soir ou le week-end. Et si j'ai pas ça, moi, je ne peux pas faire la recherche. D'autres qui restent dans un coin, ils n'aiment pas trop voir les patients. Je respecte et ils font des trucs plus propres, plus organisés. Moi, je suis un peu. Mais il faut que je prenne d'un côté et c'est ça qui me donne la force de le faire. Il y a aussi l'orgueil de réussir, je veux dire, de faire des trucs, d'être invité de parler. C'est aussi un moteur que je ne nie pas. Donc, je veux dire, c'est pas que ça le moteur, mais c'en est un puissant.
Est-ce qu'on va peut-être laisser la parole à la salle? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui?
Moi, j'aurais une question sur la proximité entre le patient et le médecin. Dans votre livre, vous dites que vous n'êtes pas sûr si vous recommandez la même chose à cette génération de médecins. Vous donnez un exemple d'un de vos patients qui vient faire des travaux à la maison et qui se blesse. Et un de vos enfants est tout proche, il saigne. Et ce moment de panique, bref, mais de panique quand même.
Oui, j'ai dit, j'ai été trop loin. Il avait le HIV, il y a toujours le HIV et l'hépatite C. Il descendait la télévision au sous-sol et il passe ses mains sur le mur en béton. Il saigne, les enfants sont là. Je veux dire, j'ai beau être gentil ou bien l'aimer, il y a comme le sang est là. C'est quand même un moment une possibilité de transmission qui est chez moi. Avec mes enfants à côté, Je veux dire, là, c'est quand même, c'est pas l'hôpital avec la blouse blanche ou c'est le travail quand les gens se blessent ou avec des piqûres, ça arrive. Là, c'est dans l'intimité, c'est-à-dire tu es chez toi avec ta famille. Et là, j'ai eu le sentiment que c'était trop, que j'avais peut-être dépassé la limite ou les règles de distance, de distance professionnelle que l'on doit avoir. Ça m'a fait peur et voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait des réponses, il y a des efforts, il y a une ligne qui est toujours à reconstruire, mais là, j'ai eu le sentiment que c'était trop. Et voilà, alors...
Mais qu'est-ce que vous diriez à vos étudiants maintenant ?
J'ai quand même eu une étudiante qui y avait un homme qui était, il y avait une tumeur, un myélome, et donc elle était allée avec elle l'accompagner ou aller à la maison, ce que j'ai jamais vu faire par un seul résident au Québec, et à l'Hôtel Dieu et à McGill. Donc je dis, c'est quand même formidable. Et elle était très émotive et passionnée, et elle était tellement passionnée qu'elle me rendait coupable quand à 6h30, 7h, je voulais rentrer à la maison, ce qui est l'heure légitime quand il n'y a pas des drames non plus imprévus tous les jours. Et elle, oui, mais il faut faire ça, il faut revenir là. Et il fallait qu'on sorte à 8h30, 9h. Alors, moi, j'ai dit, mais... Et j'ai dit cette phrase, mais tu sais, si tu fais médecine, c'est pour 40, 60, 40, 45 ans là, que tu vas faire. Tu as le temps de faire ça. Et donc, elle... J'ai pas trop dit, mais moi aussi j'ai fait comme toi, et la seule différence c'est que 15 jours après, elle a démissionné d'hématologie, elle a fait médecine interne, elle est très brillante, c'était la plus brillante, puis là c'est un grand interniste du Royal Vic, et là elle fait la coagulation, donc des gens qui sont moins gravement atteints, et la médecine interne, mais elle a changé quand j'étais là, quand j'étais son patron, devant mes yeux, sur des patients. Et quelque part, elle s'est profondément blessée par les patients et ça a changé sa carrière, où elle a fait une carrière enfin, prestigieuse et elle réussit très très bien, mais avec une lourdeur et une souffrance de gens qui meurent plus rares et qui lui convient mieux. Donc j'en ai vu une qui s'est brûlée en faisant ça. Donc quand même, quand tu es plus âgé, qu'elle travaille avec toi, les gens, il ne faut pas non plus qu'ils en fassent trop, qu'ils débordent et se brûlent. Et c'est pour ça que je suis quand même content de ce livre, de ne pas l'écrire après avoir été brûlé. Parce qu'il y en a qui se brûlent, ils ne le disent pas. Et une beauté du livre, parce que le livre aussi, ça permet de parler. Ça, j'ai découvert ça grâce à la publication d'un écrit. Des médecins que je vois, un médecin français qui est un chercheur de Montpellier, je lui donne le livre, il dit « Ouais, je prends l'avion dans une heure, je retourne ». Et je lui dis, alors il voit le titre, ce que le sida a changé. Et il venait pour des aspects immunitaires de l'entrée du virus dans la cellule, puis maintenant des médicaments qui bloquent cette porte d'entrée. Et il m'a dit, moi c'était pareil, je lisais ou je lui parlais un peu du début, ça a été pareil, je vois la chambre, mon patron me disant de faire des trucs énormes, je ne me suis pas senti, les gens mouraient. Il m'a dit, en sortant de la chambre de ce sidéen, j'ai décidé de faire de l'immunologie laboratoire et d'arrêter la clinique. Je suis sûr qu'il a dit à personne. Et c'est grâce à ça, enfin, l'idée de l'écrire. Moi, vous, ça vous a permis d'écrire. Moi, ça m'a permis de faire la recherche clinique. Alors, j'ai peut-être pas tout le tempérament et l'aspect méticuleux, un peu obsé, très précis qu'il faut avoir. Et lui, finalement... Il a tourné en faisant du labo parce que ça lui était insupportable, mais il continue et il est un des grands immunologistes du sida. Il a contribué à la meilleure connaissance d'un médicament pour bloquer le sida. Donc sa contribution à la communauté des gens atteints est énorme, mais il l'a fait par le labo pur. Et il n'exerce plus la médecine, enfin il fait le labo à 100%. Donc c'est vrai que ça change les gens et que les médecins, quand ils ont ces carrières ou quand ils se brûlent, c'est silence, bouche cousue. Et donc, on ne les entend pas, ceux qui font l'épidémiologie, la santé publique. Il y a peut-être d'autres raisons, on ne dit pas. Mais une des raisons, c'est la terreur, la responsabilité que ça pose, le fait qu'on ne contrôle pas son horaire et qu'on peut s'y brûler. Donc, c'est quand même risqué. Mais c'est passionnant aussi. Alors, il y a toujours ces chemins plus étroits.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Michel ?
Vous avez parlé tout à l'heure de la conscience. Mm-hmm. patient et le médecin. Vous avez également parlé de la pouvoir justement faire un équipe au sein en tant que médecin. Vous donnez beaucoup. Vous avez parlé aussi de la nécessité de recevoir justement
Elle est énorme, mais on peut la bloquer ou on peut en parler. C'est-à-dire que une des choses, c'est que quand je rentre chez moi, je peux parler des patients et de mes émotions à ma femme ou à mes enfants ou aux gens qui m'entourent. Donc j'ai des lieux où je peux en parler. J'ai l'impression que certains de mes camarades n'ont pas de lieu où en parler, où le travail est fini, on passe à autre chose et qu'il y a une séparation privée-publique. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre le travail professionnel et enfin, la vie privée. Enfin, j'ai quand même des horaires où je rentre chez moi, mais c'est comme un continuum et ça m'irrite quand les gens ont des sortes de coupures de leur vie privée publique. Donc, dans ce double dialogue, il y a aussi la possibilité que mes émotions soient reçues en dehors du lieu de travail, dans des zones d'écoute ou des personnes capables de m'écouter ou qui ont la gentillesse de m'écouter et qui est une aide énorme. Et à mon avis, si on n'a pas cette aide extérieure, on ne fait pas ça longtemps, on ne peut pas non plus le faire tout seul. Donc il faut qu'il y ait des lieux d'écoute, qu'il y ait des lieux ou avec des personnes de raconter des histoires ou ce qu'on a vécu. Donc c'est un échange aussi d'un soutien que je reçois en dehors du lieu de travail. Il n'y a quand même pas beaucoup de dialogue dans les lieux de travail, et donc il faut se les créer un petit peu à l'extérieur. Oui, oui.
Je voudrais juste pousser un petit peu plus loin. Alors, vous avez un lieu chez vous où vous pouvez parler.
Oui, je pense.
Vous avez des enfants, les médecins ont des enfants. Mm-hmm. Est-ce que les enfants sont présents au moment... Est-ce que c'est une chose que les enfants soient présents au moment où le parent, par exemple, exprime de l'émotion sur ce sujet-là? Est-ce qu'à long terme, non pas à court terme, parce que je pense que c'est important que le jeune puisse comprendre ce que vit son parent, mais est-ce qu'à long terme, est-ce que ça peut faire guérir plus vite?
Ça peut donner un élargissement du champ de conscience. Et la seule réponse à long terme, c'est que mon fils aîné a fait médecine et vient de décider de faire hématologie, c'est-à-dire la même spécialité que son père. Donc c'est curieux, donc ça ne l'a pas dégoûté. Donc c'est déjà pas mal, parce qu'il y a des enfants de médecins qui veulent tout faire sauf le travail de leur père. Donc je suis très content pour lui, mais aussi pour moi, c'est-à-dire qu'en revenant à la maison, j'ai probablement pas donné une image si négative ou si dure ou impossible ou d'une vie brûlée en disant « mon père fait que travailler, je veux tout faire sauf le boulot de mon père ». Et ça, il y a des enfants de médecins qui me l'ont dit directement face à leur père qui a un métier très semblable au mien et ils veulent surtout pas faire ça. Donc je suis content qu'au moins, j'espère, c'est à eux à le dire, mais au moins qu'il y en ait un qui veut faire la même chose que moi, il va commencer en juillet l'hématologie. Ça veut dire que j'ai donné une image, un modèle identificatoire qui n'est pas à rejeter. Donc ça c'est pas mal. Donc je pense que c'est bon et que ça ouvre sur l'intérêt. Puis il faut quand même raconter quelque chose quand on rentre à la maison. On raconte sa journée. Autrement, on n'a rien à dire. Autrement, c'est le frigo, le réparer, le truc. C'est ennuyeux, quoi. Et voilà. Mais...
Et parler de la mort, c'est pas non plus quelque chose nécessairement de facile,
non plus d'entendre. Oui, oui. Mais c'est-à-dire, les patients, on s'y appelle à la maison ou on répond avec le bellboy le soir ou la nuit. On est allé à Samarche, c'est le grand défilé, avec les enfants, avec les autres patients qui étaient à l'époque en chaise roulante et que certains ont disparu. Donc il y a eu quand même une exposition. Il y a eu un camp d'été où je suis allé avec mes enfants et ma femme, où les gens étaient mourants, couverts de kaposi, puis on se baignait dans le lac avec eux. C'est vrai que c'était... Je regrette qu'il n'y ait pas des photos maintenant, parce que c'est des trucs qui sembleraient extrêmes, qui sembleraient d'un autre monde. Et ils étaient laids, quoi, c'est-à-dire malades, maigres, couverts de sang dalmatien, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était pas très bien. Donc, mais c'était aussi une aventure pour moi. J'étais là, j'ai trouvé un sens et j'espère le trouver aussi. Puis pour une note positive, c'est aussi d'avoir été témoin des progrès. Des progrès qui ont dépassé toutes nos attentes, même s'il y a encore du chemin à faire, et que maintenant on parle de guérir, d'éradication. Je suis invité à Genève le 25 mars pour parler en 20 minutes, guérir du sida, réalité ou utopie. Alors vous voyez, c'est quand même formidable. Puis on a quand même à Montréal trouvé des voies ou mieux comprendre pourquoi le virus reste après des années de trithérapie. Et donc maintenant, il y a des études qui ont pour but de diminuer le virus caché pour tenter un jour de guérir tout ça. Donc on en est quand même là dans les recherches. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est donc maintenant un nouveau rêve, c'est qu'on puisse libérer les gens qui en apparence vont souvent bien, pas tout le temps, avec la trithérapie. Et qui est, alors c'est quand même ça maintenant, en 2012, le rêve et l'objectif. Mais il y a eu tout ce passé avec la mort, sa mort comme scandale. Et là, j'aimerais juste citer quand même une phrase de Catherine, qui est très belle et qui... Je me refuse à comprendre, je refuse de mettre sous la loi d'un quelconque savoir, d'une possible raison. La mort est un scandale, je n'y peux rien, ainsi soit-il. Et je pense qu'il y a dans ce cri, et quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a une différence entre moi et elle, c'est que ce scandale, mon métier, c'est d'essayer d'intervenir dessus. Donc c'est, il y a une action, il y a une chose à faire. Alors que pour le bénévole, le volontaire, l'ami, l'amant, c'est ça. Et le texte est absolu. Et cette force, elle peut être tolérable que si on dit « je veux être un acteur du changement », comme disent les gens pour les élections. Donc si la politique, c'est le goût du futur... Eh bien ici, c'est que la recherche donne une possibilité d'ouvrir ce futur et pas comme le bénévole d'y faire face à un mur. Et c'est ça que j'aimerais dire à Catherine, c'est que sa position est très difficile, c'est celle de l'amitié, de l'amour et du respect, et que c'est dur parce que c'est un fait établi. Il n'y a pas d'intervention pour que ça change. Enfin, à l'échelle d'une personne, on peut pas, c'est sur l'ensemble et sur le temps. Et c'est ensemble où ça me semble plus facile dans ce livre-là que dans celui-là. Non, ouais, non, honnêtement, non.
Chacun a son destin.
C'est sûr.
Donc, on y emporte, chacun sa croix. Donc, la vôtre n'est certainement pas plus légère que la mienne. Est-ce qu'il y a une question courte, une dernière petite question? Non, on s'arrête là, peut-être? Alors, je vous remercie infiniment.
Ben, merci. Merci.